Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une nouvelle série intitulée « Reviens vers celui qui t'a sauvé et racheté ». C'est l'étude numéro 1 et notre thème sera qu'est-il arrivé à Pierre? Avant de devenir chrétien, Pierre avait été un marin qui passait son temps à boire et à jurer. Si vous lui avez dit qu'un jour il s'intéresserait à Dieu, il vous aurait ri au nez et probablement envoyé au diable. Il avait tout fait pour impressionner ses camarades de bord, tels que les beuveries et la vie dépravée. Il avait la démarche chaloupée et conquérante d'un vrai loup de mer. Cependant, il y avait au moins un marin sur ce navire de guerre qui n'était nullement impressionné par la conduite de notre ami. Il s'appelait Johnny. Johnny dirigeait une classe biblique qui se réunissait chaque semaine dans l'un des dépôts. Johnny et Pierre avaient suivi ensemble les cours de formation de base. De même, et de temps à autre, Johnny avait parlé à Pierre. Il lui avait parlé de sa vie gâchée et du besoin qu'il avait de Jésus-Christ. La réponse fut d'abord hostile. Ensuite, Pierre a fait semblant de se désintéresser de la chose. Johnny était patient et surtout persévérant. Bien sûr, Pierre n'aurait jamais voulu assister à la classe biblique, cela aurait terni définitivement son image de marque fabriquée avant avec tant de soin. Mais à une ou deux reprises, au cours de brèves rencontres avec Johnny, il posa des questions qui trahissaient un besoin caché. Une nuit, alors que Pierre retournait seul à son bateau, après avoir passé une soirée de beuverie à Port-Brest, voilà qu'il fut attaqué par trois bandits qui l'ont battu terriblement en le dépouillant complètement et ils l'ont laissé inconscient dans une ruelle. La police navale a retrouvé Pierre et l'a ramené au navire où il a passé 2 jours à l'infirmerie. Peu de temps après, Johnny se retrouve à côté de Pierre en faisant la queue pour le repas. Ils ont déjeuné ensemble, puis sont retournés au dépôt afin de bavarder. Pierre était prêt. Johnny lui présenta la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'engagea à remettre totalement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Pierre, profondément touché, s'agenouilla auprès d'une rangée de caisses et dit « Ô Seigneur, jusqu'à présent j'étais dans les ténèbres. » Mais maintenant, je vois clair. 6 ans se sont écoulés. Pierre est entré maintenant dans la vie civile et habite dans la région parisienne à Buteau. Il est marié et il a 2 enfants, un garçon et une fille. Il travaille pour le compte d'une firme automobile. Mais il n'a plus cet amour brûlant pour le Seigneur. En fait, il ne s'approche jamais d'une église. Sa femme non plus d'ailleurs. Ses enfants ne sont jamais allés à l'école du dimanche. Pierre n'a pas d'amis chrétiens. Il semble même éviter les chrétiens le plus possible. Or voilà qu'il y a 2 semaines, Johnny rentrait en permission chez lui à Bobigny et il s'arrêta à Puteau pour rendre visite à Pierre. Il avait entendu dire que cela n'allait pas trop bien pour Pierre. Lorsque Johnny arriva devant la maison, Pierre était dans le garage en train de s'occuper d'une voiture. Ils se saluèrent cordialement, mais il manquait quelque chose. Il y avait une certaine gêne entre eux. La franchise du passé avait totalement disparu. 10 minutes s'étaient écoulées lorsque Johnny se décida à rompre la glace. « Qu'est-il arrivé ?» « Cher Pierre. » Pierre ne répondit pas. Il se contenta d'écraser du pied sa cigarette. Johnny fit une nouvelle tentative. « Pierre, personne ne pourra nier que tu t'es converti ce fameux soir dans le dépôt, rappelle-toi. » Pierre jeta un regard rapide vers la maison pour voir si personne ne pouvait surprendre ses propos. Alors il dit, « Eh bien ça c'est vrai que je me suis converti, mais depuis je me suis éloigné du Seigneur. Il y avait chez lui quelque chose de pathétique lorsqu'il bougea nerveusement l'aile avant droite de sa voiture. C'est vrai que je me suis converti, mais je me suis éloigné du Seigneur. Converti, oui, mais éloigné du Seigneur. Chers amis, qu'est-il vraiment arrivé à Pierre? Comment s'est-il éloigné du Seigneur? Peut-il revenir? Et comment? Le cas de Pierre est un phénomène typique, malheureusement trop connu dans la vie chrétienne. Je veux parler de la régression spirituelle. Voyez-vous, un rétrograde, c'est un croyant authentique qui n'est plus en communion avec Dieu parce qu'il existe dans sa vie des péchés qui sont non confessés. Que voulons-nous dire par ne plus être en communion avec Dieu? Eh bien, exactement ceci. Voyez-vous, Dieu est saint. Il n'y a point de péché ni de ténèbres en lui. Pour pouvoir jouir de la communion avec Dieu, l'homme doit confesser et abandonner ses péchés dès qu'il en est conscient. Comment 2 personnes peuvent-elles devenir des compagnons de route si elles ne sont pas d'accord? Comment un homme peut-il être en communion avec Dieu s'il tolère le péché dans sa vie alors que Dieu le condamne et que Dieu l'a peut-être même condamné? La communion dans une famille signifie que les membres qui la composent vivent en bonne intelligence les uns avec les autres. Mais imaginez qu'un différend douloureux s'élève entre un mari et sa femme, eh bien leur communion sera rompue. Le ressentiment et la tension surgissent et l'esprit de famille paisible disparaît jusqu'à ce que mari et femme reconnaissent leur tort et se réconcilient. Eh bien, voyez-vous, il en est ainsi dans la famille de Dieu. Le péché rompt la communion avec Dieu. Le lien fragile de la communion se casse, puis on peut même dire se casse parfois net, et demeure ainsi tant que le péché n'est pas confessé et abandonné, il demeure. Mais, tandis que le péché rompt la communion, il ne rompt pas la relation. Je répète, le péché va rompre la communion, c'est vrai, mais il ne rompt pas la relation. Au moment de la conversion, une personne devient enfant de Dieu par la foi au Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 1, verset 12. Cette relation existe du fait de la naissance spirituelle. Rien ne peut la rompre. Une fois qu'une naissance a eu lieu, rien ne peut plus changer la relation. C'est une réalité indissoluble. Et c'est pourquoi on a comparé la relation du croyant à une chaîne qui ne saurait se briser alors que sa communion ressemblerait davantage au fils ténu d'une toile d'araignée. Voyez-vous, lorsque un chrétien commet un péché, il reste toujours enfant de Dieu, mais la joie de l'esprit de famille s'en est allée. Il ne perd donc pas son salut, d'accord, mais il perd tout de même la joie de son salut. Cela peut arriver à n'importe quel croyant. Dans la plupart des cas, on commence par négliger la sainte parole de Dieu et surtout la prière. Les pressions de la vie grignotent le culte personnel quotidien. Tandis que nous nous soustrayons à l'influence de la Sainte Bible, nous n'avons plus une vision aussi aiguë du péché. Nous avons tendance à avoir une attitude complaisante et libérale. Les tentations ne semblent plus repoussantes, dégueulasses. En fait, l'avant-goût du péché ne nous déplaît plus du tout et exerce même sur nous un certain attrait, bien que nous n'allions pas jusqu'à y succomber. Enfin, nous y pensons si bien qu'il nous devient tout à fait familier. Ensuite, nous jouons avec le feu. Nous pactisons avec le mal. Et pour terminer, nous finissons tôt ou tard par céder totalement à la tentation. Notez Saint Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Voyez-vous, la plupart des croyants rétrogradent un jour ou l'autre. Oui, Il y en a qui rétrogradent, malheureusement. Alors la Bible nous parle de certains hommes, des hommes de Dieu qui ont été connus, qui permirent au péché de rompre la communion qu'ils avaient, eux, avec Dieu. Nous avons des célébrités dans l'Ancien Testament. Lot. Ensuite, vous pouvez citer Samson, Naomi, David, Jonas, Pierre et Démas, tous furent de ceux-là. Donc le chrétien qui se croit à l'abri d'une telle expérience, c'est celui qui court le plus grand danger. Aussitôt que le lien de la communion est rompu, le Saint-Esprit se met à l'œuvre pour opérer notre rétablissement, si possible. Il cherche donc à nous convaincre de pécher, puis à nous amener à la repentance et à la confession. Mais voilà, à cause de notre orgueil, surtout ce qui concerne les hommes, et de notre dureté, cela peut prendre des semaines, parfois des mois, pour certains même des années. Et j'ai honte de vous le dire, c'était mon cas. Moi qui vous parle maintenant, à l'âge de passer 90 ans. Voyez-vous, tout péché doit vraiment être confessé à Dieu, même si c'est difficile. Mais si d'autres personnes ont été atteintes par notre péché, ça arrive, eh bien nous devons, si possible, le leur confesser également, de leur demander pardon. Et chaque fois que notre péché a causé un préjudice réel à d'autres, eh bien, réparation doit et devrait être faite. Voyez-vous, dès qu'une confession sincère a été faite à Dieu et aux hommes, et que la restitution a eu lieu, eh bien, la communion avec Dieu est rétablie et le Saint-Esprit peut poursuivre le ministère qu'il aime, qu'il glorifie ainsi le Seigneur à nouveau, son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est donc important cela, très important. Cela veut donc dire qu'un chrétien peut évidemment commettre un péché, ça arrive à plus de certains d'entre nous, comme c'est arrivé à moi. Mais il peut s'en tirer aussi. Il est évident que ce n'est pas toujours le cas pour tous, hélas. Mais pour la plupart, c'est le cas. Parce que c'est possible pour tout un chacun d'entre nous. Même pour ceux où c'est épouvantablement difficile. Mais en considérant cette question, il est utile de faire la distinction entre la rançon du péché et les conséquences du péché. La Sainte Bible dit clairement que le rétrograde, notre ami Pierre, n'aura jamais à payer la rançon de son péché. Cette rançon, voyez-vous, elle a été payée par le Sauveur, notre Seigneur, sur la croix. Ceux qui croient en lui ne viendront pas en jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie, selon Saint Jean chapitre 5, verset 24. En d'autres termes, lorsque un croyant authentique commet un péché, il n'est pas condamné à l'enfer, comme certains pensent. Le sacrifice sanglant de Christ est donc pleinement suffisant pour payer la rançon du péché. Dieu ne nous demandera pas de payer la rançon une deuxième fois, alors que Jésus-Christ a donné sa vie pour nos péchés à la croix. Voyez-vous, lorsque un enfant de Dieu commet un péché, Satan, l'ennemi juré de Dieu, l'accuse, et même devant le trône de Dieu. C'est alors que le Seigneur Jésus s'avance en tant qu'avocat. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Et Jésus montre les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté. Et il dit effectivement, j'ai payé toute la rançon du péché. Et cela, il y a plus de 2000 ans. Alors, mets-le tout simplement sur mon compte. Ainsi donc, Pierre le rétrograde n'aura pas à payer les conséquences éternelles de son péché en enfer. Mais je m'empresse d'ajouter qu'il aura tout de même à souffrir des conséquences de son péché ici-bas, et cela aussi bien que au ciel. C'est pas moi qui le dis seulement, c'est écrit noir et blanc. Alors, chers amis, voici quelques-unes des conséquences de notre péché, ainsi que le mien, ici-bas. Tout d'abord, le nom du Seigneur est déshonoré. Ensuite, le témoignage est absolument sans valeur. Ensuite, la douleur et le malheur pèsent sur les autres. Il y a donc une perte de temps et d'argent considérable. Ensuite, il y a des troubles physiques qui peuvent avoir lieu et des troubles émotifs. Il y a, et on le comprend, également une honte indicible, et des remords. En plus, il y a une douleur et une misère personnelle. Sans compter qu'il y a des occasions manquées, surtout de servir Jésus-Christ. Et pour terminer, notre ami Pierre le rétrograde, il est une pierre devenue une pierre d'achoppement pour les autres. Voici quelques conseils et quelques conséquences du péché qui peuvent avoir une conséquence dans l'au-delà. Je répète pour que ce soit bien compris parce que c'est terriblement important. Il y a évidemment, avec tout cela, quelques conséquences que nous ne pourrons pas éviter de notre péché dans l'au-delà et qui ne peuvent hélas pas être évitées. Premièrement, c'est toujours pas moi qui le prétends. Premièrement, il y a la perte de la récompense lors du tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3, verset 13. Ça me concerne aussi. Deuxièmement, il y a moins de possibilités de se réjouir dans le Seigneur et de jouir des gloires célestes. Mais, tout n'est pas perdu. Cependant, Dieu est beaucoup plus grand que tous nos péchés. Notre Père céleste attend le retour du rétrograde. La porte est toujours ouverte. Un accueil royal lui est donc réservé. Le Seigneur a des façons merveilleuses de faire en sorte que nos péchés et nos manquements soient à sa propre gloire et pour notre propre bien. Nous avons donc constaté que la cause de toute régression spirituelle, c'est le péché. C'est toujours le péché qui va rompre la communion avec Dieu. Et cette communion est rompue tant que le péché n'est pas confessé et surtout abandonné. Notons maintenant que la régression spirituelle revêt plusieurs formes. Bien que la cause essentielle et la guérison soient les mêmes dans tous les cas, cette maladie spirituelle a cependant divers aspects. Et pour ne pas oublier, actuellement, vous l'entendez à la radio, à la télévision et dans les journaux, un célèbre auteur de cinéma qui a reçu plusieurs Oscars et fait des dizaines de films, a malheureusement profité de son statut important ainsi que de sa richesse pour molester, même violer, beaucoup de ces jeunes filles pour leur permettre de devenir actrices. Ils ont dû passer par son sexe. Actuellement, eh bien, il y a plusieurs instances juridiques, aussi bien aux États-Unis que en Angleterre, qui vont lui intenter un procès, malgré qu'il est très très riche et qu'il a les meilleurs avocats. Voyez-vous, il faut faire attention, très attention. C'est pas parce que quelqu'un est très important, très influent, qu'il passera toujours entre les gouttes. Chers amis, il y a plusieurs formes de régression spirituelle. Nous pouvons tout d'abord mentionner le rétrograde moral. Il faut entendre par là le chrétien qui succombe au péché sexuel, comme notre célèbre auteur de cinéma. Prenons un nom fictif, MX, par exemple. Il est marié depuis 15 ans et il avait été un membre actif même dans l'église locale. C'était soi-disant un chrétien moyen, à cette seule exception près, il semblait être excessivement libre avec les femmes, trop libre. Langue déliée, attitude familière et des mains caressantes où il faudrait pas toujours, tout arriva lorsqu'il partit en voyage d'affaires et surtout loin des siens. Depuis ce jour-là, il ne se rendit plus à l'église régulièrement et à la maison, les choses ne furent plus jamais comme avant. Personne ne sait ce qui s'est passé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas le même. Il est froid, il est distant et totalement indifférent. Jusqu'à présent, il ne s'est ouvert à personne et entend bien ne pas changer d'attitude. Passons maintenant au rétrograde du type fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire bouleversante, fabuleuse du fils prodigue. Eh bien, c'était le cas de M.Y. Il avait été élevé à l'abri d'un foyer chrétien, c'était pas du tout mon cas, et s'était converti l'année précédente, et son enrôlement était dans l'armée. Il fut soulagé d'échapper aux contraintes de la vie de famille, car il était décidé à vivre ainsi sa vie. Il y en a beaucoup qui disent, quand ils sont très jeunes, je veux tout de même essayer de vivre ma vie. J'en ai bien le droit. Pendant son séjour à l'armée, personne n'aurait pu se douter qu'il avait été autrefois chrétien. Il faisait bande avec les autres et les imitait le plus possible. Pendant tout ce temps-là, il jouait un certain rôle. Ce n'était pas le vrai M.Y. et il le savait. Tout au fond de lui-même, il y avait un sentiment de culpabilité et d'insatisfaction. Venons maintenant à M.Z. M.Z. était un rétrograde intellectuel. Après l'Institut biblique, il étudia à l'université. Il avait deux raisons solides pour cela. La première était son désir de suivre les traditions familiales. La seconde, c'était l'envie de décrocher un diplôme d'une université connue. La matière qui l'intéressait était surtout la philosophie. Au cours des premiers mois, ses convictions chrétiennes furent fortement ébranlées. Il est devenu maussade et critique. Il a perdu perdu totalement la simplicité que l'on trouve surtout en Jésus-Christ. Et il fut rempli de doutes et de spéculations. Il y a bien sûr le rétrograde qui s'adonne à la boisson et aux drogues. Tôt ou tard, il finit par devenir alcoolique ou drogué. M.A. n'était pas au début un grand buveur, pas du tout. Il buvait gentiment son verre de vin rouge à midi, avec son repas, tout à fait normal. Lorsqu'il invitait ses clients à dîner, il prenait ensuite un cocktail avec eux. Mais voilà, quand les tensions sont devenues plus fortes à la maison et au travail, il a commencé à se réfugier de plus en plus dans la boisson, comme d'autres le font dans la drogue. Maintenant, il en est même devenu l'esclave. Une bouteille de whisky par jour ne lui suffit bientôt plus. Mais il a encore l'impression de pouvoir s'en défaire quand il le désirerait, croit-il. Lorsqu'il songe à l'Église et à ses amis chrétiens, il est accablé de honte et pour échapper à ce sentiment-là, alors, encore un verre de whisky, pourquoi pas. Voici donc un autre type de rétrograde, un chrétien marié, et c'est donc pas du tout un non-chrétien, un chrétien marié. Le conjoint chrétien a commencé à se décourager, et pour terminer, il a été vaincu. Maintenant, c'est le rétrograde qui s'est mis sous un joug étranger. C'est Mademoiselle X. Elle était une chrétienne rayonnante, merveilleuse, magnifique, avec ses cheveux longs jusqu'aux fesses. Elle parlait du Seigneur à tous ceux qu'elle rencontrait, spontanément. Son fiancé prétendait s'être converti après qu'ils ont été fréquentés pendant 3 semaines seulement. Or aujourd'hui, elle est convaincue que c'était une profession de foi, hélas, qui avait été faussement motivée. Ils ont du reste très peu de choses en commun. À la maison, il y a toujours des querelles. Les enfants sont irritables et rebelles. Son mari lui dit qu'il ne s'intéresse ni à elle, ni aux enfants. Ça, c'est pas drôle du tout. Il passe, du reste, la plupart de ses soirées avec ses soi-disant amis. Elle l'attend à la maison, tout en ruminant ses pensées et en pleurant. Elle a essayé de suivre le Seigneur pendant quelques années après leur mariage, mais maintenant, elle a totalement capitulé. Ensuite viennent les rétrogrades qui sont trop occupés par les affaires. Il se peut qu'il n'ait pas commis de péché flagrant, mais ils ont laissé le travail de les absorber au point qu'il ne reste, pour ainsi dire, plus du tout de temps pour la famille et le Seigneur. Ils lisent très rarement la Sainte Parole de Dieu, juste à Noël et à Pâques. Ils ne prient presque plus du tout et ils ne vont plus à l'église. Et s'ils y vont, comme j'ai dit, à Noël et à Pâques, uniquement pour une formalité. Alors les soucis de cette vie ont commencé à saper leur vitalité spirituelle. Ils sont victimes de la convoitise et du matérialisme. Ils veulent être multimillionnaires. Oh, il y a bien d'autres cas encore. Par exemple, certaines personnes frustrées à la suite d'un chagrin d'amour, eh bien ces personnes peuvent devenir froides, mais parfois aussi très charnelles. Au lieu d'accepter les circonstances comme étant la volonté de Dieu, même profitable, elles font grise mine, boudent et perdent totalement leur flamme spirituelle. Certains encore sont incapables de pardonner. On leur a fait en son temps du tort, et tout le monde autour d'eux le sait. Mais ils ne veulent surtout ni pardonner, et en plus, ni oublier. Il y en a qui disent « je te pardonne, mais j'oublierai jamais ». Ça, mes chers amis, ce n'est pas un pardon, pas du tout. Voyez-vous, ils sont devenus des pharisiens et surtout un manque de compassion. Alors Dieu ne peut pas accorder à des croyants qui ne désirent pas pardonner, pardonner aux autres. Il ne peut pas leur accorder non plus le pardon qu'un père accorde à son enfant. Notez Saint Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Beaucoup de chrétiens tombent donc dans un état de régression spirituelle parce qu'ils se disputent constamment chez eux des différends sans importance, ébranle toute la paix du ménage. Les murs sont même secoués par des querelles. On se bat. Les relations diplomatiques entre mari et femme sont donc rompues. Et le moment consacré à la prière familiale est devenu de plus en plus rare. Ce serait une pure comédie de vouloir prier ensemble alors qu'on est incapable de se parler avec courtoisie et de ne jamais se pardonner. Aucun des deux est prêt à céder. Ils sont ainsi figés dans leur rigidité. Chacun pense qu'il a raison et ne se rend pas compte qu'il est également rétrograde. Chers amis, nous pourrions aller allonger encore la liste. La régression spirituelle se manifeste de bien des manières, mais elle est toujours et elle a toujours comme origine, croyez-le, c'est le péché. C'est la désobéissance, c'est l'immoralité, c'est le manque d'amour, c'est le refus de pardonner, c'est la mondanité et parfois même la convoitise. Oui, cela étonnera peut-être certains de savoir que des croyants authentiques peuvent être aussi éloignés de Dieu que les cas qui viennent d'être mentionnés maintenant sur ce CD. Mais il peut être utile, chers amis, de nous souvenir des faits suivants. Écoutez bien pour terminer. Premièrement, David a été, comme vous le savez tous, un rétrograde moral. Il a été adultère et même meurtrier. Notez 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Jusqu'au verset 27. Deuxièmement, nous avons Noé qui a commis le péché d'ivrognerie après qu'il a été sauvé du jugement de Dieu par le déluge. Notez Genèse chapitre 9, versets 20 et 21. Et troisièmement, nous avons Lot qui fut un rétrograde accaparé par les affaires. Sodome l'attirait par son prestige et par sa richesse. Notez la Genèse, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 28. Pour terminer notre étude aujourd'hui, sachez que tous ont retrouvé la communion avec le Seigneur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu le Père et à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. S'ils furent rétablis dans cette communion, eh bien, il peut en être de même, pour tout croyant authentique qui se serait éloigné de Dieu. Donc, c'est possible aussi pour toi, au cas où tu serais un rétrograde. Que Dieu te bénisse. Car il t'aime, et moi aussi, je t'aime. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous dire quelque chose pour votre spiritualité, pour avancer avec le Seigneur, mais aussi pour votre engagement avec lui, dans le sens que vous êtes peut-être parfois un peu abattu. Alors je voudrais vous encourager, écoutez bien. Rappelez-vous qu'une vraie prière ne demeure jamais inexaucée. Lors donc qu'une chose vous paraît mauvaise, ou que la conduite de quelqu'un vous afflige, faites-en un sujet de prière, afin que tout rentre dans l'ordre. Mais oui, élargissez votre horizon. Il s'agit de servir généreusement et de contribuer au salut de tous. Peut-être n'êtes-vous pas en état de quitter votre chambre, mais cela ne vous empêche pas de pouvoir devenir une des forces les plus agissantes pour le bien même de votre pays. Il se peut que l'importance du labeur que vous accomplirez vous échappe peut-être, mais Jésus-Christ la connaît. Lui et l'ennemi aussi la connaît. Ah oui, quelle est admirable la vie de celui et de celle qui s'emploie au salut des autres. Vous êtes ouvrière avec lui, votre sauveur. Comprenez toujours mieux votre rôle, s'il vous plaît, et ne vous éloignez jamais de Jésus, mais partagez sa vie. Maintenant, nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, bénis pour nos âmes et la méditation de ta sainte parole, qu'elle tombe dans un terrain bien préparé et que pour cet effet, ta grâce agisse dans nos cœurs et les tourne entièrement vers toi. Seigneur, de qui descend tout don parfait, fais-nous la grâce que par tes saintes inspirations, nous puissions comprendre ta sainte parole éternelle et la recevoir dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, qui montre la lumière de la vérité à tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'erreur, assiste-nous par ta grâce, afin que nous puissions vivre conformément à notre sainte vocation de chrétien, et que nous écoutions ta divine parole avec amour et crainte. Ô Dieu, qui es la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, exauce nos prières par ta miséricorde, et puisque à cause de la faiblesse de notre nature, nous ne saurions faire aucun bien sans toi, alors accorde-nous le secours de ta grâce, afin que nous te soyons agréables dans nos pensées et dans nos actions, par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Et j'aimerais maintenant vous transmettre un ou deux chants d'un très lointain passé, plus d'un demi-siècle. Oh oui, vraiment. En 1954, j'avais enregistré cela. Mais, évidemment, vous comprendrez que la qualité du son ne peut pas rester éternellement parfaite. Surtout que l'enregistrement que j'avais fait, je n'avais pas des appareils comme aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit peut vous transmettre quelques bénédictions merveilleuses en écoutant ces mélodies. Essayons.
Thank you. Thank you.